Comme nous le disions tout à l'heure, notre invité pour cette reprise de Radio Barque, c'est Yves Bastier. Alors Yves Bastier, vous êtes maire d'une commune, Salelles-d'Aude, depuis pas mal de temps d'ailleurs. Mais là aujourd'hui, nous allons essentiellement, je dis bien essentiellement, parler de chasse, puisque vous présidez cette fédération des chasseurs audois, depuis un certain temps aussi d'ailleurs.
12 ans.
12 ans. 12 ans. Voilà. On va revenir là-dessus. Quand même un tout petit mot, vous êtes maire d'une commune audoise, donc de la région Occitanie. Tout à l'heure, Michel a dit ce qu'il pensait du saupoudrage de Madame Delga, présidente. Quel est votre regard là-dessus en deux mots?
Alors, je ne sais pas si j'aurai un regard objectif, mais ce que je peux constater, c'est que sur des dossiers importants, la commune de Salelles n'a jamais été aidée par la région Occitanie. Et je souhaitais l'indiquer surtout sur la maison médicale que nous avons montée sur Salelles. Hein. C'est un coût d'achat de près de 400 000 euros, 200 000 euros de travaux. Et la région nous a donné zéro.
Alors, voilà. Alors quelle aide d'autres communes sur des projets identiques?
Oui, je pense, oui.
Bon, c'est-à-dire que le saupoudrage serait partiel,
voilà,
et partiel.
C'est l'exemple. Voilà, ben, je pense que quand même sur des dossiers aussi importants que ça, qui touchent une maison médicale, surtout de la taille que l'on a fait sur Salelles, ça concerne pas que Salelles. Et je pense que ça aurait dû être pris en considération dans le cadre de l'aménagement du territoire, au
ouais,
moins.
Ouais. Alors, pour conclure, et avant de changer de sujet, Carole aurait ses têtes.
Il faudra le lui demander.
Alors revenons, Yves Bastier, à la Fédération des chasseurs audois. On sait, dans un département rural ou semi-rural comme l'Aude, que la chasse, depuis fort fort longtemps, joue un rôle important.
Oui, oui.
La structure est importante aussi, ne serait-ce que par le nombre des chasseurs.
Oui, oui, mais bon, après, le nombre des chasseurs, il faut savoir que il a beaucoup diminué sur une dizaine d'années, puisqu'à l'époque, quand il y avait du lapin encore sur le département, il y avait 23 000 chasseurs. Voilà, aujourd'hui, on est 13 000.
Oui, donc pratiquement.
Et on est sur un palier depuis quelques années, quoi. Voilà, on perd 200 l'année dernière, une centaine, 200, 300 chasseurs chaque année, mais surtout dû à la pyramide des âges et l'évolution culturelle qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas simple dans la famille d'avoir un chasseur ou deux chasseurs, et un couple chasseur encore moins. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué. De continuer à avoir cette fonction sociologique dans le département du monde de la chasse.
Et à titre comparatif, par exemple au plan national, est-ce que cette baisse est identique dans l'Aude ou moins sensible?
Je pense qu'elle est sensible dans les zones où la chasse est pratiquée de manière démocratique, j'allais dire. Puisque nous sommes un des rares départements à fonctionner avec les ACA, les associations communales de chasse agréées, qui permet donc à tout chasseur de chasser sur le territoire de sa commune, alors que sur d'autres départements français, ce ne sont que des sociétés, donc il faut acheter la carte pour aller chasser à des prix très très élevés, il faut aller chasser. Donc c'est culturellement pas la même chose. Dans ces départements, je pense qu'il y a là une perte moins importante que chez nous, où sociologiquement l'évolution est plus compliquée, quoi.
Oui, on va y revenir probablement là-dessus. Il y a bien encore le nord et le sud en matière de chasse en France.
Hein. Tout à fait.
On va développer ça. Mais un tout petit mot quand même sur ce que sont ces ACA. En deux mots, pouvez-vous nous expliquer? C'est un sigle que beaucoup de gens connaissent, mais sans trop comprendre ce que ça recouvre.
Mais au lieu d'appuyer le mot société, qui est complètement privé, l'ACA, c'est une association communale, donc il y a un agrément, un arrêté préfectoral, et sur lequel sont reconnus un territoire de chasse qui donne gratuitement, qui donne accès aux chasseurs. Et après, le chasseur localement, il a son bureau de gestion de l'ACA et il fait payer une cotisation pour l'entretien, le gibier, enfin pour toute forme. Donc si vous voulez, c'est une structure qui est reconnue et qui a des règles dessus pour fonctionner. Et sur le département, d'ailleurs, il y a encore quelques communes, notamment dans l'ouest du département, qui ne sont pas en ACA et qui posent des problèmes de gestion sur le territoire.
Mais la majorité le sont en ACA.
La majorité le sont, puisqu'il y en a plus de 300 sur le département.
Et ça veut dire que c'est la commune qui délimite son territoire de chasse?
Mais il y a une enquête, comme une enquête publique, si vous voulez. Et on demande à l'ensemble des propriétaires s'ils sont d'accord pour laisser leur territoire à chasser aux chasseurs du coin. Voilà. Mmh. Et on peut s'y opposer si on a une propriété qui dépasse 30 hectares. Si on a une propriété qui est moins de 30 hectares, la propriété est mise d'office sur le territoire de l'ACA. Bien entendu, il y a, quand je dis les propriétés, je parle des champs, hein, ou des forêts. Je ne parle pas des propriétés bâties où il y a un rayon de non-chasse autour de chaque
propriété. Bâti et clôturé.
Non, bâti. Dès qu'il y a une maison, vous avez un rayon de 100 mètres autour où on ne peut pas chasser, ce qui est logique. Généralement, le rayon est bien plus important que ça.
Oui, d'accord. C'est comme les zones anti-pesticides dont parlait tout à l'heure, Michel.
Mais là, c'est 500 mètres. Là, il ne resterait plus grand-chose dans la commune.
Oui, effectivement. Alors, Yves Bastier, vous le disiez, vous êtes président et vous avez été chasseur, j'imagine, depuis fort longtemps. Grosso modo, un petit bilan sur ce que c'était la chasse et ce que c'est aujourd'hui. Quelles modifications ou changements avez-vous constaté ?
Sur le département, vous savez, il y a quelques années, on tuait quelques centaines de sangliers. Il y a 20 ans en arrière, le sanglier n'était pas le gibier majeur, c'était le lapin. D'ailleurs, tout le monde chassait le lapin, facile à chasser, agréable. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup aussi de chasseurs sur le département. Le lapin a quasiment disparu sur le département. Le petit gibier, malheureusement, dû à beaucoup de causes que je n'aborderai pas aujourd'hui, a disparu de beaucoup de...
Notamment les pesticides, peut-être.
Ça se joue aussi. Donc, les trois quarts des personnes qui chassaient le petit gibier, soit ils ont arrêté, soit ils ont basculé sur le gros gibier.
Ouais. Alors donc, on va revenir sur les sangliers aussi, parce que ça c'est...
Pour le partage grosso modo sur le département, vous avez sur 13 000 chasseurs, vous avez 8 000 à 8500 chasseurs qui ne chassent que le gros gibier.
Que le gros gibier,
donc, vous voyez que c'est quand même important.
Et alors dans un département aussi diversifié que l'Aude, chassé par exemple dans les plaines du Narbonnais, dans les Corbières, dans la Montagne Noire, sur l'Alarique, en Lauragais, ça doit être totalement... Ou sur le plateau de Sceaux, ça doit être totalement différent.
Mais oui, on va de la mer à la montagne, hein,
oui, voilà.
À Madre, qui est la haute montagne. Donc,
et j'oubliais les zones marécageuses.
On chasse du gibier d'eau jusqu'au gibier de montagne, et c'est ce qui fait la diversité de ce département. Mais c'est vrai que bon, le gibier, il est quand même... compressé avec les activités humaines qui font que le gibier est en régression. Par exemple, moi, quand je suis arrivé président de la fédération, on chassait encore le coq de bruyère. Moi, j'ai arrêté complètement la chasse au coq de bruyère depuis qu'on est là. Mais malgré ça, on ne peut pas dire qu'il y a une progression importante sur cet oiseau qui est mythique. Quoi. C'est magnifique,
bah oui.
Le coq de bruyère. Voilà. Et il y a beaucoup de gibiers comme ça qui se trouvent... La bécasse est un oiseau migrateur.
Oui.
Voilà. Donc, alors là, ça dépend de la reproduction. Nous, on a essentiellement la bécasse qui vient de Russie. Et ça dépend toujours s'il y a eu les conditions idéales en Russie, s'il n'y a pas eu d'incendie comme en Sibérie, pour que la bécasse puisse migrer.
Alors que le coq de bruyère est d'ici. Enfin,
lui, il est sédentaire. Mmh. Voilà. On a du gibier sédentaire. Après, tout ce qui est, j'allais dire, gros gibier, entre guillemets, on peut y mettre le chevreuil à l'intérieur. C'est un animal qui a progressé de la mer jusqu'à la montagne et qui s'adapte très bien. Les gros cervidés sur la haute vallée, le chalabré, un peu sur les corbières, sont également en nette expansion sur le département. On dirait que c'est le gros gibier qui prend la place, qui a su s'adapter aux conditions. On ne parle pas du sanglier qui, lui, est capable de traverser l'étang à la nage et s'adapter en haute montagne. Et puis, il mange tout et n'importe quoi. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est l'animal idéal pour s'adapter. Bon, je ouvrirai quand même une petite parenthèse, en sachant qu'on a aussi les grands prédateurs, dont le loup, qui pose quand même des problèmes. Alors, on ne le chasse pas.
Est-ce qu'il est réapparu dans l'Aude, le loup ?
Eh bien oui, il est sur l'ouest audois, et ça pose beaucoup de problèmes avec notamment les éleveurs. Quoi, voilà. Donc c'est vrai que moi, un loup qui se situe sur Madre, ça ne me dirige pas forcément.
Alors Madre, c'est la frontière avec les PO,
c'est ça, mais c'est le point dominant de l'Aude. Hein, alors que le loup... dans le Lauragais, c'est plutôt gênant, quoi.
Oui, oui, effectivement. Et alors, justement, à cause de ce changement, cette évolution, cette transformation, est-ce que les structures de la fédération, par exemple, ont changé? On sait aussi que souvent, chasseurs se trouvent opposés à écologistes, que ça plaît pas à tout le monde, et c'est vrai, ça repose sur quoi? Mais est-ce que ça vous a amené à des transformations, des évolutions?
Moi, depuis que je suis président, j'ai voulu donner, j'essaye de donner une image différente du chasseur traditionnel. Chasseur, tueur, voilà, viandard, c'était un peu, et c'est un peu l'image qu'on essayait de véhiculer sur le chasseur. Alors que le chasseur, par définition, c'est le plus grand écologiste du terrain, c'est lui qui est sur le terrain. On entretient les territoires. Et donc, moi, j'ai voulu pousser plus loin, à faire de la formation, de l'animation et de l'information de notre territoire.
C'est-à-dire vous formez les chasseurs quand ils prennent le permis?
Oui, oui, là il y a la formation, mais moi je parle hors chasse. Nous avons une association qu'on appelle MC2 Nature, où il y a du personnel qui va... On a un agrément national, on est agréé à association de la nature, ce qui paraît peut-être paradoxal. Oui, d'ailleurs, on s'appelle la Fédération départementale de la chasse et de la nature. Mm. Voilà, on a rajouté le mot nature il y a quelques années. Et donc, ça nous permet par convention d'intervenir dans les écoles, et on intervient souvent dans les écoles, les collèges, les lycées, pour faire découvrir. Alors on n'arrive pas avec la tenue de chasse, le fusil, etc. Les gars de la Fédé arrivent avec leur tenue normale, j'allais dire, et présentent la faune de leur département, puisque je crois que même aujourd'hui, il y a beaucoup de d'Audois qui ne savent pas la richesse que l'on a au niveau de la faune. Donc on a monté notre propre musée de la faune à la Fédération.
Qui se trouve à Badens.
Donc qui est ouvert au public et qu'on peut venir voir. Et souvent, avec les classes viennent voir d'abord les animaux, ils sont empaillés, c'est comme ça. Et après, on essaie de leur faire découvrir dans la nature, et de leur montrer, leur faire découvrir la chance que l'on a dans le département de l'Aude d'avoir cette diversité.
Mmh, oui, donc important de souligner ce côté pédagogique de la Fédération des chasseurs d'Audois.
Mmh. Oui, puisque la chasse, après, ça prend, j'allais dire, 6-7 mois de l'année, et le reste de l'année, même pas dans cette période-là, on intervient auprès des scolaires de manière de plus en plus importante.
Mmh. Alors Yves Bastier, vous avez insisté notamment sur la richesse de la faune dans l'Aude, avec le loup de retour, paraît-il. Il y a un animal dont peut-être certains se passeraient aujourd'hui, c'est le sanglier, parce qu'il prolifère, vous l'avez dit, il est capable de s'adapter à tout, mais il devient pénible et c'est une nuisance aujourd'hui. Mais si vous voulez, c'est un de vos problèmes essentiels,
C'est la chance et la malchance de la Fédération, parce que sans sanglier, il n'y aurait pas de chasseurs. Mais trop de sangliers, il y a trop de nuisibles et surtout de dégradation sur le département. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on constate l'évolution du chasseur, je l'ai dit tout à l'heure, perte du nombre de chasseurs, l'âge croissant du chasseur qui reste, la difficulté, le milieu qui se ferme. On n'est pas conscient que dans beaucoup de secteurs du département, la montagne noire et surtout les corvières, il y a des exploitations qui sont laissées à l'abandon, il n'y a pas de reprise, tout ça, il y a des friches, et là, c'est le monde idéal pour le sanglier. Très difficile à les chasser. Donc aujourd'hui, on est en train d'avoir une chasse de plaisir, de passion, qui se transforme presque à une chasse d'obligation. Et ça, c'est vrai que c'est quand même dommage, parce que quelque part, on est obligé de chasser plus longtemps. Les gens ne se rendent pas compte non plus que pour chasser, il faut avoir des chiens, que les chiens, il faut les entretenir, les soigner toute l'année,
oui.
Que les sangliers blessent et tuent un nombre croissant
de
chiens chaque année. Les frais de vétérinaire, etc., etc., qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes qui poussent certains collègues à dire « nous, on en a marre, ce n'est plus une chasse de plaisir, donc on arrête ». Et le danger, ça serait que ce nombre descende et qu'on n'ait plus assez de chasseurs pour pouvoir faire notre boulot.
Et que les sangliers prolifèrent encore plus.
Alors. Ah ben oui, voilà. Alors on compte
combien, grosso modo, par an sont abattus?
Ben entre 15 et 20 000. Hein,
c'est... 15 et 20 000, sur ouais, rien ouais. que sur l'Aude.
Ouais, sur l'Aude. C'est très important. Hein. Alors ouais. ça, c'est le comptabilisé officiel.
Oui,
sans compter. Entre ceux qui passent à côté aussi, je pense qu'on est plus proche des 20 000 que des 15 000.
Et est-ce que c'est ce chiffre-là quelque chose qui est nécessaire à un certain équilibre, d'après ce qu'on peut évaluer?
Ben, jamais personne pourra vous dire comment on peut comptabiliser le nombre de sangliers sur un territoire. Nous, on considère que, grosso modo, en fin de chasse, il en reste un sur deux. Voilà. Alors, c'est l'expérience qui nous fait dire ça.
C'est une évaluation empirique,
voilà. Oui. Mais comme il n'y a plus d'hiver, que le sanglier mange un peu n'importe quoi... les femelles font des petits maintenant au bout de 6 mois. Certaines peuvent vous faire des portées plusieurs fois dans l'année. Il suffit que vous laissiez quelques sangliers dans un coin et que vous les dérangez pas ou qu'il n'y a pas de régulation. Et
c'est une invasion.
Vous avez une prolifération en quelques années.
Oui, donc la chasse est absolument nécessaire pour cet équilibre agricole. Si
aujourd'hui, aujourd'hui, on a trouvé que ça. puisque vous parlez du monde agricole, il faut savoir qu'on travaille quand même très bien avec la Chambre d'agriculture depuis quelques années. On a mis en place des groupes de travail, des cellules de veille. Pour faire en sorte que dès qu'il y a une signalétique quelque part de sanglier qui cause des problèmes, on puisse intervenir. Et c'est vrai que bon, ça marche pas à 100%, mais je pense qu'à 90%, avec la Chambre d'agriculture, on est efficace sur le territoire.
C'est-à-dire, vous êtes informé très vite de l'endroit où il y a un foyer de sanglier.
Oui, non, mais surtout le sanglier qui va créer des dégâts, parce que le sanglier, c'est pas tous les sangliers qui font des dégâts. Mais vous pouvez avoir une laie qui va aller dans un champ avec la suite derrière, elle apprend à ses petits à aller dans le champ, si c'est le champ de maïs ou le champ de betterave, oui. De betterave il n'y en a pas, de pommes de terre, etc. Donc l'intérêt, c'est la bête qui fait des dégâts, c'est de la supprimer le plus rapidement possible. Les autres qui savent ce que ça veut dire ne reviendront pas de sitôt dans le secteur.
Et alors il y a à ce sujet, justement, parce que ça cause des dégâts dans l'agriculture, des indemnisations, comment ça fonctionne et à quelle hauteur ça s'élève.
Nous avons
sujet à caution, apparemment.
Oui, parce qu'on a l'obligation, le chasseur est le seul à avoir l'obligation de rembourser les dégâts aux agriculteurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un débat qui est relativement... Alors, il est simple, les agriculteurs, ils vous disent c'est à vous de le rembourser. Bon, c'est vrai. Il y a des barèmes qui sont établis, il y a une commission départementale présidée par le préfet, donc c'est très réglementé. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est obligé de suivre de très près l'évolution du sanglier, sinon on se fait déborder. Et on est dans des ordres de 400, 450 000 euros chaque année de dégâts que le chasseur doit prendre
en compte. Ah oui, près d'un demi-million d'euros quand même.
Voilà.
Oui.
Et alors, comme je vous dis, les chasseurs diminuent, c'est compliqué chaque année pour... de toute façon, on a l'obligation de payer. Donc, jusqu'à présent, c'est pour ça que j'avais un espoir un petit peu dans la réforme, que les dégâts... D'ailleurs, que vous soyez adhérent à la fédération ou pas... la fédération se doit de rembourser les dégâts qui se font sur le territoire. C'est un peu beaucoup aberrant.
Voilà. Oui, et alors c'est sur déclaration des gens qui ont subi ces dégâts.
Voilà, c'est les agriculteurs qui font les déclarations préalables à la fédération et après avec la chambre d'agriculture. Et ensuite, il y a une commission qui établit le montant.
Et la véracité de ces dégâts.
Voilà, oui.
Bon, il n'y a pas d'abus là-dessus, il n'y a pas de tricherie.
Oh, comme partout, j'allais dire.
Oui,
comme partout.
C'est possible, des tricheries sont possibles
bien sûr.
Aussi.
Il y a toujours des coquins partout.
Oui, j'ai une remarque, Michel.
Si la pyramide des âges aujourd'hui des chasseurs n'évolue pas, on va se retrouver dans 15 ans dans une situation où il n'y aura plus de chasseurs pour réguler effectivement cette population de gibier qui cause des dégâts. Alors que faire ?
Oui, c'est ce que disait M. Bastien à l'instant.
Passe-t-on les chasseurs ?
Moi, je pense que déjà, il fallait, dans la réforme du permis de chasser, réforme de la chasse qui a été votée avant l'été, c'était au moins d'obliger l'ensemble des territoires adhérents aux fédérations pour avoir au moins les recettes correspondantes. Après, moi je me dis, dans quelques années, il faudra peut-être mettre des brigades spéciales pour le sanglier,
parce qu'il y aura, créer des chasseurs,
il y aura pas, il y aura pas assez de, voilà. Nous on le voit différemment. On essaye de faire découvrir le monde de la chasse pour qu'il y ait de nouveaux chasseurs.
Oui, voilà. Et votre pédagogie, voilà, notamment,
et
vise à ça.
Il faut savoir quand même que chaque année, vous avez 400 ou 500 personnes qui passent le permis.
Ah, quand même, des nouveaux chasseurs.
Voilà. Et la contradiction, c'est qu'après, vous en avez que la moitié qui vont le valider, le permis. Ah, voilà. Et donc, aujourd'hui, on est sur une étude pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pousse les gens à passer le permis. Et après, qu'est-ce qui les retient pour ne pas le valider et aller à la chasse.
Vous avez une étude d'opinion à faire là-dessus.
Voilà, c'est ça. On est en train de le faire parce qu'il y a beaucoup aussi de citadins, j'allais dire, qui le passent.
Qui deviennent chasseurs.
Et après, peut-être qu'ils comprennent que c'est un peu plus compliqué pour pratiquer la chasse.
Ils avaient surévalué peut-être ce que c'était. Un tout dernier mot, et on va conclure là-dessus, Yves Bastier. Jadis, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait ce qu'on appelait un vote chasseur, avec même un moment CN. PT, qui était un parti ou un mouvement chasse nature pêche tradition,
c'est ça, oui.
Qui se présentait systématiquement à des élections, qui faisait des scores d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui ce qu'on peut appeler un vote chasseur ?
Je crois pas. D'abord parce que ce vote chasseur, il a été abandonné.
Oui, CNPT n'existe plus.
Il existe, mais bon, j'allais dire, il a été abandonné pour différentes raisons. Et puis, l'homme reste l'homme, donc certains sont allés peut-être défendre des intérêts personnels au détriment des intérêts collectifs.
Oui, comme ça arrive en politique
parfois. Ça peut arriver, effectivement. Moi, ce que je regrette, effectivement, c'est que le monde de la chasse ne soit pas solidaire et présent sur un certain nombre d'élections. Mais c'est en réflexion.
Voilà. Donc il y aurait quand même un vote chasseur qui ne s'exprime pas aussi clairement que
surtout
ça.
Surtout dans des départements comme nous, départements ruraux, qui peuvent être déçus d'un vote politique classique. Là, la chasse n'est pas prise en considération. Le chasseur qui est toujours puni. Peut-être qu'à un moment donné,
il faut savoir.
Ça fera beaucoup. Quoi.
Voilà, il faut glisser son butin dans l'urne.
Et
pour
comme il y a 13 000 familles chasseurs dans le département,
voilà. Ça fait quand même du monde. Compter, ça fait des voix qui peuvent faire parfois la différence. Merci Yves Bastier pour ce tour d'horizon, pour cette rentrée de la chasse dans notre département. La semaine prochaine, puisque ce Radio Barque a réentamé sa 6e saison, nous recevrons, changement total de sujet, Jérémy Ribourel, qui est le patron du volleyball du Club des Centurions, et qui nous expliquera notamment ce qu'il prévoit de faire en grand spectacle dans la future Arena de Narbonne. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.